peu importe le projet, il va toujours y avoir du négatif.
Exactement. Et parlant de choix, il y a le SPVM et également la SQ hier qui ont choisi de frapper fort sur la mafia sicilienne avec l'arrestation notamment du co-chef du clan mafieux, Leonardo Rizzuto. Et on a l'ex-enquêteur du SPVQ, Roger Ferland, avec nous au bout du fil. Roger, comment ça se passe au chalet à l'heure actuelle?
Ben, matin, un beau petit réveil, il fait beau, il fait soleil ici, de mon côté, fait que je sais pas qu'est-ce qu'il fait à Québec, là, mais il fait beau ici.
Il fait beau, certain. Ouais, puis Roger, tu te lèves de bonne heure quand même au chalet, parce que tu répondais à mes textos à 5h du matin, mon ami.
Je suis pas sûr que je t'ai réveillé beaucoup, mais je répondais aux textos pour qu'il arrête de sonner.
Je m'excuse, Roger, d'avoir fait sonner ton cellulaire aussitôt. Roger, à quel point c'est gros les arrestations d'hier, notamment, là, je l'ai dit, l'arrestation, celle du co-chef du clan mafieux, Leonardo Rizzuto.
C'est vraiment important. C'est le genre d'opération que souvent, quand tu commences, il y a 3 ans, tu te dis, je ne suis pas sûr qu'on va aboutir un jour à ça. Moi, je me rappelle quand on avait fait Shark, je me dis, je pense qu'on ne verrait jamais le jour qu'on arrêterait les 150 L de la province de Québec. Là, ben là, c'est à peu près pareil. Quand j'ai vu ça décoller il y a 3 ans, j'ai dit, Colin, ils ne sont pas encore rendus au bout de leur travail. Fait que la journée d'hier, le 12 juin pour eux autres, va devenir significatif. Puis sincèrement, félicitations. Parce que c'est très rare que tu peux arrêter des gens sur des complots de autant de meurtres. Moi, c'est pas la première fois que je vois des arrestations, il y en a déjà eu plus que ça. Mais des individus importants qui sont la tête des réseaux, qui sont ceux qui commandent les meurtres, c'est rare qu'on peut atteindre jusqu'à eux. On entend souvent les histoires, on sait que c'est eux, on écrit des rapports en disant c'est lui. Parfait, prouve-le maintenant. Alors, c'est pour ça que la très grande difficulté a été, dans un premier temps, de recevoir pour les policiers les confessions de Frédéric Silva. En prendre une note, on met ça sur vidéo à ce moment-là, avec un très haut niveau de sécurité, genre avec une mise en garde, comme quoi on va l'accuser si jamais... il y a quelque chose de faux là-dedans. Mais après ça, ligne par ligne, on fait inventaire de tout ce qu'il nous raconte dans les plus fins détails et on essaie de corroborer tous ces éléments-là. Fait qu'une histoire, par exemple, qu'il te raconte, qui rentre sur quelques pages de texte, ben mettez-moi autant de lignes que vous avez là-dedans. C'est tous des éléments qu'on va chercher à corroborer indépendamment, d'où le fait que ça a pris autant de temps pour corroborer ces faits-là. Mais là, à un moment donné, arrive le jour où on dit « on en a assez », les procureurs de couronne disent « c'est un coup ». On arrête ces gens-là.
Mais justement, tu sais, c'est grâce à Frédéric Silva, le tueur à gages, qui a décidé de parler, qu'on a pu procéder à ces arrestations-là. Si c'était pas de lui, là, est-ce que c'est carrément, on n'aurait jamais pu en arriver là, ou si ça aurait pris plus de temps? Ta vision des choses, c'est quoi à ce niveau-là?
Ça aurait pris plus que du temps. Je pense pas qu'on y serait arrivé, Max. C'est le genre de situation que... Si t'as pas quelqu'un qui devient témoin officiel, qui vient te le dire, même si là, ils vont le faire passer pour le pire témoin de la Terre, là, un témoin taré, un menteur, un tueur, un gars qui a pris plein de moyens illégaux pour arriver à ses fins, quand il s'assoit avec nous, là, à ce moment-là, on regarde officiellement, on est-tu capable de corroborer toutes ses dires? Parce que oui, on sait qu'il va se faire défaire dans boîte. Mais c'est le genre de situation, si on n'a pas des témoins spéciaux, appelons-le plein de noms, là, il y a eu le nom de délateur, témoins spéciaux, témoins repentis, ça change de nom au fil de l'histoire, c'est la même situation. Si on n'a pas ces gens-là qui sont des collaborateurs du système de justice, on n'est jamais capable d'arriver généralement à compléter les boucles dans plusieurs dossiers. Même là, lui, il va donner une couple de victimes innocentes qu'il a faites au travers, qu'on n'aurait jamais les traces. Des fois, tu sais pas comment ça que ce gars-là, il est mort. Il n'y avait pas de lien, il n'était pas connu. Là, on comprend mieux après quand on comprend l'histoire, quand lui te la raconte. Là, après ça, tu regardes les faits que tu possédais dans les dossiers d'enquête, et là, tu viens mettre... je dirais un nouveau filtre sur la validation.
Roger, on a eu l'arrestation de Dave Picturmel, chef de la Blood Family Mafia, il y a de cela à peu près 2 mois. Là, maintenant, c'est Leonardo Rizzuto, co-chef du clan mafieux de la mafia sicilienne à Montréal. Est-ce que tu as déjà vu ça dans un si court laps de temps, 2 arrestations d'importance comme ça?
Ben, il y en a déjà eu, mais c'est assez rare. Mais vois-tu, celle-là était dure à prévoir quand est-ce qu'elle arriverait. Comme je te dis, ça fait 3 ans qu'il travaillait dessus. Mais le timing, mettons, est bon pour essayer de ramener un calme. Pour essayer, même si là, en ce moment, les gangs respectent pas vraiment, ni les moteurs, ni les têtes dirigeantes de la mafia italienne ou des autres mafias qui sont là en place. C'est du chacun pour soi un petit peu. C'est pas arrivé souvent. Mais là, au-dessus, on dirait que là, beaucoup de choses arrivent à terme, des enquêtes arrivent à terme. Puis, il faut dire, gros travail d'équipe. Souvent, on dit, bon, là, hier, tu vois que c'était commun, Sûreté, avec SPVM, mais beaucoup de collaboration de plein d'autres services, là, Laval, Longueuil, la GRC, même Québec, assurément, a collaboré à ça aussi, parce que il y a beaucoup d'éléments à faire vérifier terrain. Mais que c'est rare, mais là, présentement, je pense qu'on est rendu à cette étape-là de travailler en équipe. Fait que là, cette synergie-là devient efficace.
Je fais le lien parce que Jeff a mentionné Dave Picturmel. Tu sais, à Québec, récemment, on parle évidemment beaucoup des Hells, beaucoup de la Blood Family Mafia. La mafia italienne, là, à quel point c'est encore gigantesque à Montréal?
C'est vraiment eux qui sont dans le haut du pavé, en tout cas, du moins, qui étaient dans le haut du pavé. Les choses les plus importantes que ces gens vont chercher, là, trompons-nous pas, le prêt usuraire, les paris illégaux, c'est énorme comme actif financier que ça peut leur rapporter. Parce que la mafia italienne a réussi au fil des années, ça fait quand même presque 50 ans qu'on avait affaire à eux, là, l'équipe qui est en place, là, de père en fils qui continuait. Ils ont même réussi en ce moment à infiltrer énormément l'économie légale. Ça, c'est un problème à mes yeux parce que...
Donc, ils blanchissent l'argent versus des entreprises enregistrées légalement.
Tout à fait, exactement. Et eux-mêmes, maintenant, avec des prête-noms, possèdent des entreprises enregistrées légalement.
OK.
Puis, des entreprises qu'on peut plus rien faire maintenant, certaines sont même cotées à la bourse. Alors là, t'es pris à dire, Colin, tu sais que ces gars-là, cet argent-là vient pas d'eux. Elle vient du crime organisé. Elle vient de certaines opérations illicites qui ont fait au fil des années. C'est le cas, voyez-vous, quand on regarde, on recule un peu dans le temps, l'opération Colisée qu'il avait faite à Montréal, c'était en fait le retour d'argent des prêteurs un peu partout qui se déroulait dans la région de Montréal. Ça rentrait, là, vous vous rappelez des images, c'était dans des... le gars avait ses bas de souliers, puis il rentrait des palettes d'argent qu'il n'arrivait même pas à tenir quasiment dans ses bas, là, pour après ça ressortir d'un petit café, italien, dans lequel après ça, il s'en allait se promener avec ça. C'est quasiment, ça me rappelle l'imaginaire. Voyons, non, il y avait des milliers de dollars dans ses bas.
Ouais,
l'autre étape, après Mago Mastiff, grosse opération qui avait touché la mafia italienne,
okay.
Là, c'était la concertation du prix du kilo de cocaïne. On avait bogué le bureau d'un avocat de Montréal.
Ouais.
Et suite à ça, il prêtait son bureau, voyez-vous encore là, parce que c'est dur à enregistrer. L'écoute électronique, c'est difficile. Un bureau d'avocat, c'est encore plus difficile. Alors là, ben, en prêtant son bureau, il permettait aux gens, les motards, les Italiens, les gangs de rue, il y avait 5 représentants principaux autour de la table, puis ils s'entendaient sur le prix qu'allait vendre le kilo. Mais là, voyez-vous, là, ils viennent de ramasser sur le volet violence, à mes yeux, qui est la troisième boucle, souvent qu'on se parle un peu. Ça te prend de l'argent, ça te prend de la dope, mais ça te prend de la violence. Les meurtres qu'ils ont fait, là, il y a quelqu'un qui s'est mis à table, puis c'est rare, parce que souvent, ce gars-là, il l'aurait tué avant, s'il va, là, tu sais.
Ouais, non, je comprends très bien.
Là, en prison, possiblement, que lui a considéré que ses jours étaient comptés aussi, puis là, ben, c'est ces gars-là qui, des fois, lèvent la main après des discussions avec les policiers, qui disent, OK. Je me mets à table avec vous autres, puis je vous raconte ce que je sais.
Oui, c'est sa façon là, de sauver sa peau, là, justement. Roger Fernand, ex-enquêteur du SPVQ, on termine le sujet justement sur la mafia sicilienne à Montréal. À quel point le procès est risqué lorsque ça tient sur le témoignage d'un ancien tueur à gages?
C'est extrêmement risqué, d'où le fait que les policiers ont pris assurément beaucoup de temps pour corroborer les dires. Là, maintenant, ça ne repose plus que sur lui. La trame de fond, c'est lui qui va la mettre à toutes les fois. Mais après ça, les éléments d'enquête, les scènes de crime qui auront tenu, les témoins qui auront indépendants, les autres affaires, ça va tenir la route. Là, je vous dirais, on n'est pas encore au fait qu'ils vont être condamnés final, parce qu'on a souvent vu toutes sortes de situations là-dedans en justice. Puis ça va être difficile parce que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent. C'est des systèmes qui étaient enrichis au fil des années, fait qu'ils sont capables de fighter pas mal la cour, les procédures judiciaires. Alors, on n'est pas encore au bout des condamnations, mais je pense que on est capable de le faire. C'est pour ça qu'exemple, un palais de justice comme le centre judiciaire Gouin, c'est un palais de justice qui a été construit de façon très sécuritaire à l'époque, avec une pensée philosophique de ce type-là pour être capable de faire des procès sécuritaires, de transporter sécuritairement ces gens-là, puis pour la sécurité de tous. Mais encore là, on n'est pas encore rendu aux fins. Mais je pense que ça il y a encore beaucoup de temps qui vont se passer, mais c'est good job pour l'instant. Je me dis temporairement, ça neutralise un peu le système.
On est choyé de t'avoir, Roger Ferlin, ex-enquêteur du SPVQ à Rage Against ce matin. Tu nous expliques toujours très bien ces dossiers complexes d'enquête policière et d'arrestation. Je te souhaite un excellent week-end au chalet. Il annonce du soleil toute la fin de semaine et au plaisir de se reparler la semaine prochaine, mon Roger.
Merci, plaisir de partager, les gars. Puis amusez-vous, vous autres aussi, puis tous les auditeurs de Québec.
Bonne excellent. Journée. Salut, Roger. Roger Ferlin, enquêteur du SPVQ, qui nous expliquait là, justement les enjeux par rapport aux arrestations qui ont été faites dans la région de Montréal. Il y a 13 arrestations au sein de la mafia sicilienne, dont le co-chef du clan mafieux, Leonardo Rizzuto. Ça fait là, suite au témoignage de Frédéric Silva, au policier, un ex-tueur à gages pour la mafia. C'est maintenant l'heure d'aller faire une pause. Au retour dans l'heure de 8, on va avoir évidemment des nouvelles. Un ultime combat des tunes très spécial où on va mettre en vedette Three Days Grace, qui est de passage au Centre Vidéotron mardi prochain. Et également Marie-Josée Morancy, PDG de la Chambre de commerce et d'industrie de Lévis, sera avec nous pour parler de ce fameux tracé du troisième lien présenté hier par la ministre Geneviève Guilbeault. Restez des nôtres, vous êtes à Rage Against le matin sur Boulevard 102.1. On s'arrête 2-3.